1,
9h, 11h,
Wendy Bouchard. Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur Europe 1. On est ensemble pendant 2 heures pour faire le tour de 2 questions avec nos invités et avec vos témoignages pour nous éclairer. Bonjour Julie.
Bonjour Wendy.
Cette question d'abord, alors que certains ministres sont en partance du gouvernement, qui pour la mairie de Paris, en tout cas pour la campagne, qui pour les européennes, alors on s'interroge, ministre, est-ce un métier à géométrie variable? Quel degré d'investissement de celles et ceux qui le représentent? Qu'est-ce qu'un ministre finalement pour vous? Agit-il vraiment les mains libres et que vous inspire cette fonction? Vous échangerez avec nos invités et on vous attend. Le standard est ouvert, on le reprécise, Julie. Hein.
39, 21, 50 centimes la minute.
Et puis à 10h, enquête sur le scandale de la qualité de l'air en France. Est-il devenu irrespirable et qui est responsable? Quels politiques sont les plus efficaces aujourd'hui pour l'assainir et quel impact sur notre santé? Nous sommes finalement tous vulnérables, on vous l'expliquera. Là encore, on vous attend. C'est le sommaire du tour de la question jusqu'à 11h sur Europe 1.
9h, 11h. On fait le tour de la question avec Wendy Bouchard sur Europe 1.
Et avec nos premiers invités pour répondre à cette question entre société et politique, Robert Namias, grande voix d'Europe 1. Bonjour Robert.
Bonjour Wendy.
L'ancien ministre, ancien député Jean-Marie Le Guen va nous rejoindre dans un instant. Pour accroche de notre sujet, Robert Namias, ce mini-remaniement qui se profile avec ces élections qu'on appelle de mi-mandat. Donc les européennes d'abord, les municipales ensuite. C'est probablement le casse-tête du moment pour Édouard Philippe. D'abord, c'est un fait classique pour un gouvernement, ces ministres. Qui sortent, qui entrent, alors que leur fonction, leur mission n'est pas terminée?
C'est un fait normal, en tous les cas. On peut difficilement faire une campagne électorale et être en même temps à plein temps dans son ministère. Ce qui est sûr, c'est que les choses ont quand même évolué. Elles ont évolué notamment avec la notion de cumul des mandats. Alors la question du cumul des mandats se pose d'abord pour les mandats électifs, parlementaire, maire d'une grande ville, on ne peut plus cumuler ces mandats. Mais dans le passé, on allait beaucoup plus loin, puisqu'il y avait une coutume qui consistait au contraire à penser que c'était plutôt l'inverse. C'est-à-dire que plus on avait de mandats, plus on était ancré sur le terrain, et meilleur politique on était. Si bien que à l'époque, la plupart des ministres étaient députés-maires. Alors, depuis un certain temps, ils étaient obligés d'abandonner provisoirement leur mandat de député, mais ils restaient très souvent maires d'une grande ville. J'ai souvenance des maires de Marseille, Gaston Defferre, d'autres, et qui étaient à la fois maires d'une grande ville, qui n'abandonnaient pas, comme c'est le cas obligatoire aujourd'hui, leur mandat. Et finalement, à l'époque, vous n'auriez pas posé la question. C'est-à-dire qu'à l'époque, on considérait que l'investissement du politique était total et qu'au contraire, il se nourrissait de ses différents mandats pour ses différentes activités. Aujourd'hui, c'est de nature tout à fait différente. Le regard est différent. Mais on peut se poser la question maintenant de savoir si on n'a pas fait un chemin inverse trop excessif.
Et se poser la question du pourquoi cet engagement en politique. Prenez, je salue Jean-Marie Le Guen qui nous a rejoint en studio. Bonjour Monsieur Le Guen.
Bonjour.
Prenons le cas de Mounir Majoubi qui est un secrétaire d'État au numérique, qui est compétent, qui connaît ses dossiers, qui est investi, qui est plutôt apprécié de la population, plutôt reconnu aujourd'hui, qui semble donc épanoui sur son ministère avec beaucoup d'actions, beaucoup de créations. Mais il se jette dans une autre aventure. Qu'est-ce que ça vous inspire, Jean-Marie Le Guen? Ces ministres-là qui sont ministres un temps et puis qui tout de suite voient le coup d'après, et il va probablement quitter le gouvernement en prévision des élections municipales Paris en 2020.
Oh, ça peut être un choix tout à fait personnel, respectable. C'est-à-dire que il s'engage en politique et puis après, il peut vouloir et ressentir l'idée qu'un mandat municipal, en l'occurrence, remplirait plus ses capacités d'engagement, ses compétences et qu'il pourrait apporter quelque chose encore de plus net que son mandat municipal.
On peut s'interroger sur le sens de l'intérêt général.
Pardon ?
On peut s'interroger sur le sens de l'intérêt général.
Non, parce que je pense que l'intérêt général, de son point de vue, peut être de dire « mais je serai un excellent candidat et un excellent maire de Paris et je vais servir l'intérêt général ». Alors que, par exemple, je suis secrétaire d'État au numérique, finalement, quelqu'un d'autre fera la tâche aussi bien que moi. Bon, alors après, cette cette formule-là, évidemment, dans certaines circonstances, elle ne joue pas. C'est-à-dire que quand vous êtes dans une période de tension politique, que vous avez engagé des responsabilités particulières, par exemple au milieu d'une réforme, etc., là, c'est plus difficile de dire, bah, au fait, je change d'orientation, de mandat.
On va prendre un exemple concret. Agnès Buzyn, qui était pressentie pour conduire la tête de liste européenne de la République En Marche, que finalement, Emmanuel Macron aurait souhaité garder au gouvernement comme ministre de la Santé, pour placer à sa place Nathalie Loiseau. Mais on a le sentiment, Jean-Marie Le Guen et Robert Damias, qu'à partir du moment où on est ministre, on sait que le temps est compté, on sait que la mission est éphémère, et que finalement, imaginer un autre mandat, député européen ou maire d'une ville, c'est peut-être plus concret, plus durable.
Alors,
ces hommes et ces femmes.
Je pense qu'effectivement, il faut dire les choses comme elles sont. Je ne sais pas si Jean-Marie Le Guen sera d'accord avec moi, mais je pense qu'effectivement, le regard sur un ministère, qui est quand même une activité d'une importance décisive pour la vie du pays,
quand on va y venir.
Ministre, il y a 30, 40 ministres et secrétaires d'État, ce sont quand même des hommes qui ont entre les mains, des hommes et des femmes, pardon, Jean-Marie,
les hommes vraiment, au sens de l'humanité, Robert,
bien
on s'entend.
Bien sûr, bien sûr.
ont entre les mains, quand même, à un moment donné, l'avenir et la construction des progrès du pays. C'est vrai qu'on a le sentiment que les choses ont quand même évolué, pour ne pas dire radicalement changé, depuis un certain nombre d'années, où vous avez raison, vous citez le cas de Madjoubi, mais enfin, il y en a beaucoup d'autres, on a l'impression que le ministère est plus considéré comme, à un moment donné, un lieu de passage.
C'est ça, ou
intéressant,
voir un
comme un job intéressant. Mmh. On va dans une boîte, puis on change de boîte. On va dans un ministère, et puis on change de ministère. Et puis on tente une aventure municipale. On a l'impression qu'en effet, le regard aujourd'hui est différent. Pourquoi l'est-il ? Parce que je crois qu'il l'est un peu quand même. Mmh. Il l'est un peu parce que les institutions ont considérablement évolué. Et que les institutions de la 5e, qui faisaient du Premier ministre, du temps de Gérald de Gaulle, mais même du temps de Pompidou, je dirais même du temps de Mitterrand, et disons jusqu'à Chirac inclus, c'est-à-dire, pour tout dire, on en revient toujours à la même chose, jusqu'au quinquennat. Il y avait quand même, sur les épaules de la totalité des ministres, des responsabilités qui étaient non seulement du ressort de leur ministère, soit technique, soit politique, mais des vraies responsabilités de pouvoir politique. Aujourd'hui, le pouvoir politique est tellement, ça a toujours été le cas, mais c'est bien plus important aujourd'hui que ça ne l'était il y a 20 ou 30 ans, il y a encore une vingtaine d'années, le pouvoir politique est tellement concentré dans les mains du sommet, d'ailleurs pour tout dire, de l'Élysée, on en reparlera, parce que même le rôle du Premier ministre, on peut s'interroger. Mais en tous les cas, de l'Élysée et de Matignon, disons, que les ministres, vraisemblablement, n'ont plus non seulement le sentiment, mais la réalité du pouvoir. D'ailleurs, c'était des vrais poids lourds politiques. On parlait tout à l'heure des grands-mères qui devenaient ministres il y a encore une vingtaine d'années. C'était des poids lourds politiques. Maintenant, à la fois, ce sont des gens qui n'ont pas forcément d'expérience politique, alors que la participation au gouvernement appelle, je crois, une véritable expérience politique, un véritable projet politique. Et donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, la fonction ministérielle, vraisemblablement, est vécue différemment qu'elle ne l'était il y a une vingtaine d'années.
Ça, c'est important. Je vais faire réagir juste après la pause Jean-Marie Le Guen sur cette hyper-concentration du pouvoir qui peut-être, en effet, transforme la nature de la mission. Et puis aussi sur la fameuse loi de moralisation de la vie politique, vous l'avez suivi sous François Hollande, dans Jean-Marie Le Guen, qui fait aussi que la traçabilité est telle pour s'investir dans ses fonctions qu'il est difficile peut-être de trouver les poids lourds d'aujourd'hui et de demain. À tout de suite sur Europe 1.
9h-11h, Wendy Bouchard sur Europe 1.
Alors qu'un mini-rebaniement se profile avec ces élections de mi-mandat européennes ou municipales, un certain nombre de ministres sont sur le départ et on peut s'interroger sur leur investissement.
Avec en effet des ministres qui partent pour des élections à mi-mandat, qui sont les fusibles dans les cas de crise sociale, avec des comportements hors les clous qui peuvent aussi avoir les mêmes effets et les sanctionner. On évoquera tout à l'heure le cas de M. Castaner au ministère de l'Intérieur. Jean-Marie Le Guen est avec nous en qualité d'ancien ministre et d'expérience politique. Vous avez beaucoup à nous dire sur le sujet. Robert Namias, grande voix d'Europe 1, est avec nous aujourd'hui. On se demande souvent comment on devient ministre en France. Est-ce qu'il y a d'abord une régularité un petit peu dans la manière d'être nommé? certains pour service rendu, d'autres pour amitié fidèle, et puis d'autres, c'est quand même ce qui nous intéresse, pour leur spécialité, en tout cas leur connaissance des sujets, des dossiers, et de la manière de se glisser justement dans une fonction, Jean-Marie Le Guen.
Oui, encore que je ne crois pas qu'il faut que nos auditeurs et nos concitoyens croient qu'on met force. Un bon ministre est celui qui est le plus technique dans le dossier où il est.
Théoriquement,
je pense
c'est ça.
Que...
Ouais.
Bah, théoriquement, non. Théoriquement, c'est quelqu'un qui, justement, est capable de prendre un peu de distance par rapport à un sujet, à intégrer ce qui est possible, la manière dont on doit parler aux gens pour effectuer un certain nombre de réformes, de changements. Et donc, c'est pas forcément quelqu'un qui est un expert, qui sait... Ceci doit être relativisé dans certains domaines où, par exemple, on voit bien quand même que s'agissant du ministère de la Santé, ça n'a pas toujours été le cas d'ailleurs, mais enfin, être médecin permet d'avoir, j'allais dire, une attitude intellectuelle et aussi une crédibilité vis-à-vis de nos concitoyens.
Mais
on n'imagine pas qu'un militaire soit au ministère de la Défense, qu'un policier soit au ministère de l'Intérieur, et j'allais dire, tant mieux. C'est d'ailleurs pour ça que je relativise aussi l'affaire des médecins au ministère de la Santé. Donc, la technicité...
Et c'est un médecin qui parle.
Oui, absolument. la technicité, elle peut être utile, mais j'allais dire, théoriquement, quand vous êtes engagé en politique, vous avez une certaine forme d'expérience, vous avez eu à traiter un certain nombre de questions et vous vous êtes profilé plutôt sur certains types de dossiers que vous maîtrisez plus ou moins.
Oui. Et ça, le Premier ministre ou le Président le savent, évidemment.
Voilà. Donc, voilà. Alors dirige... après, évidemment, on est là en particulier... avec ce qui s'est passé en 2017, on a vu quand même la volonté absolument de mettre en avant des gens dits de la société civile qui n'ont pas toujours forcément les codes de l'action politique, ce qui peut être à la fois une qualité, mais peut être aussi un défaut, au sens où il y a une difficulté à se faire comprendre, à saisir les opportunités pour opérer les changements nécessaires.
On va prendre un exemple. Moi, je vais vous citer Françoise Nyssen, par exemple, ministre de la Culture, directrice des éditions Actes Sud. Ils se sont dit, bon, c'est un beaucoup politique quelque part, parce qu'elle connaît la matière, et puis il s'est avéré qu'elle ne savait pas communiquer. Après, des affaires l'ont rattrapée, elle a dû quitter le gouvernement, mais c'était au départ peut-être un bon choix symbolique, mais pas opérant sur le terrain.
Oui, et puis bon, vous parlez d'affaires qui, franchement, Françoise Nyssen, vraiment, c'était millimétrique. Oui. Mais vous avez raison de le dire, le combat politique et l'exposition politique est extrêmement dure, extrêmement violente. Il faut avoir la force psychologique pour supporter des mises en cause qui ne sont pas toutes légitimes et justifiées, c'est le moins qu'on puisse dire. Et donc c'est un certain type de caractère qui permet de résister à un environnement qui est toujours très compétitif. Je dis ça pour être gentil et bon, parfois très cruel. Donc c'est pas évident non plus. C'est bien qu'on puisse renouveler les responsables politiques. Je pense, moi, je suis très frappé de la manière dont quelqu'un comme Cédric Villani apporte potentiellement, j'allais dire, vraiment quelque chose de nouveau à la culture politique.
Il dit qu'il n'a jamais autant travaillé d'ailleurs.
On a beaucoup trop de politiques qui viennent, on le voit bien, de formations administratives, type l'ENA ou d'autres. Moi, je pense qu'il faut élargir complètement le terreau et bienvenue aux scientifiques. Mais en même temps, le politique, ce n'est pas la somme des techniques. Il y a une culture particulière, non pas un milieu corporatiste ou des habitudes, simplement des réflexes, une façon d'être, une conception, une capacité à faire des synthèses, à rassembler des éléments épars qu'un technicien pur ne fait pas.
Et ça marche ou ça marche pas. Regardez le cas de Nicolas Hulot, qui a toujours refusé d'être ministre, qui a accepté sous Emmanuel Macron en disant que peut-être l'action politique, la conception de l'action gouvernementale allait changer, et puis finalement il s'est cassé les dents, comme beaucoup avant lui, Robert Namias.
Oui, la question du faut-il que les ministres soient des politiques, des élus de terrain qui est déjà derrière
experts,
eux,
ouais.
Une expérience vraiment d'élection, une expérience élective, ou faut-il au contraire des personnalités issues de la société civile qui ont une expérience professionnelle et qui savent de quoi ils parlent concernant leur profession? Cette question, elle a émergé il y a une quarantaine d'années. Au début de la Ve République, les politiques étaient des politiques, tous les ministres étaient, alors là pour le coup c'était des hommes en plus, il y a eu une ou deux femmes, Madame Sidcara, secrétaire d'État, je crois que c'était, alors là je ne sais plus très bien, Madame Sidcara, elle était secrétaire d'État. d'État du général de Gaulle, je pense que c'était...
Déjà, vous vous souvenez d'elle, c'est bien.
Mais, bah oui, je suis à peu près le seul à pouvoir citer son nom, mais bon. Il n'y avait que des hommes et que des politiques, car on considérait... La question, c'est celle-ci. C'est la question de l'intérêt... qui est celui d'une profession qui est liée à un ministère. Alors, pour la santé, c'est vraiment l'ensemble des professions médicales au sens le plus large du terme. Il n'y a pas que les médecins, il y a les soignants, il y a l'hôpital, il y a l'administration de l'hôpital. Mais enfin, c'est autour quand même de la vie médicale, et on se dit effectivement, un médecin peut être plus compétent, mais en même temps, c'est celle de l'intérêt général. De l'intérêt général. Et je reprends par exemple la question du ministère de la Santé. On peut aussi se dire que un médecin a un regard corporatiste sur les décisions qui doivent être prises en matière d'administration générale et des politiques publiques de santé, la répartition des hôpitaux sur le territoire, les déserts médicaux, comment lutter contre les déserts médicaux, mais sans que ce soit à l'intérêt de telle ou telle corporation et de telle ou telle profession. Donc c'est vrai que c'est une question qui reste relativement ouverte. Moi, je pense, alors si vous me demandez mon avis personnel, après tout, je pense quand même que l'expérience a montré qu'il était rare que des ministres issus complètement de la société civile, qui n'avaient eu jamais aucun mandat électif, fassent de grands ministres dans leur ministère. Mmh. On a vu, au contraire, l'inverse, on a vu des ministres issus de la société civile exploser en vol de manière extrêmement spectaculaire au bout de quelques jours. Ça a été le cas de Servan Schreiber au bout de 9 jours dans le premier gouvernement Chirac chez Giscard d'Estaing. Ça a été le cas de Schwarzenberg. Alors lui, médecin et ministre de la Santé, qui a explosé aussi en quelques jours. On voit aujourd'hui, par contre, qu'il y a, paradoxalement, un certain nombre de personnalités, vous parliez d'Agnès Buzyn tout à l'heure, elle peut être contestée pour les choix politiques globaux du gouvernement, mais c'est un ministre de la Santé qui effectivement connaît son travail. Madame Pénicaud, on peut la contester parce qu'elle a un profil précisément de société civile où elle était dans une grande société du CAC 40. Il reste qu'on voit bien qu'elle connaît son métier de ministre du Travail. Donc aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué. Mais c'est vrai que la question centrale est celle-ci. Est-ce qu'un ministre issu de la société civile, sans expérience et qui a un métier qui le lie à une corporation, peut vraiment travailler pour l'intérêt général?
Le fait, et peut-être qu'on connaît moins leur vie, qu'ils passent, leur action, qu'ils passent peut-être moins aussi à la postérité, mais vous le disiez bien l'un et l'autre, Jean-Marie Le Guen, Robert Namias, il faut quand même une expertise, en tout cas se plonger dans ces dossiers avec ces techniciens qui vous entourent, résister à la puissance des lobbies, on va en parler aussi pour certains ministères très exposés. Le choix des ministres, comment on agit quand on est ministre, avec les mains libres ou non, pour vous, quelle est votre perception du citoyen aussi? On fait ce tour de la question alors qu'un mini remaniement se profile au gouvernement Édouard Philippe. 3, à tout de suite.
9h-11h, Wendy Bouchard sur Europe 1.
Le tour de la question sur la fonction de ministre, un drôle de métier par définition éphémère, un métier à géométrie variable, Wendy Bouchard.
À l'occasion d'un mini remaniement pressenti pour cause d'élection de mi-mandat municipal ou européenne, on interroge en effet le rôle du ministre, sa manière d'arriver aux affaires, d'en repartir et de changer d'attribution le cas échéant. Jean-Marie Le Guen est avec nous, ancien ministre, ancien député socialiste, et Robert Namias, grande voix d'Europe 1. C'est vrai qu'on a ça fait partie aussi des écueils de la fonction, beaucoup parler de ministres interchangeables ou parachutés qui quittent des dossiers et vraiment des missions qui n'ont aucun rapport les uns avec les autres. Ça fait aussi partie de la qualité justement de l'expérience politique de pouvoir pendant quelques mois ou quelques années vraiment se plonger dans un nouveau sujet, Jean-Marie Le Guen.
Oui, je crois que plus que de l'expertise, il faut avoir une culture et une appétence pour le sujet que l'on traite dans son département ministériel. Ça, je crois que c'est important. L'expertise, elle est forcément limitée, d'ailleurs, parce que quand vous êtes ministre de l'Agriculture, eh bien, il y a 10 ou 15 expertises différentes, selon que vous êtes dans tel type d'agriculture ou d'autre. Pareil pour d'autres secteurs.
Ça veut dire que vous
avez
tout un tas de collaborateurs, de chargés de mission qui travaillent les sujets pour
ce
vous.
Ce qui est important, par contre, c'est de vivre et d'être en empathie avec ce milieu. Ce qui est important, c'est d'avoir une culture de base qui vous permet évidemment de bien comprendre et d'articuler les propositions. Et ce qui vous... c'est aussi un rôle par rapport à à la manière dont on voit le politique. Vous parlez de Nicolas Hulot. On voit bien que Nicolas Hulot, qui est un personnage qui était très important pour témoigner, pour faire avancer une cause quelque part, il fait d'abord passer avant tout l'idée de faire gagner sa cause telle qu'il la voit, et c'est parfaitement légitime. Mais il a du mal, évidemment, à assumer les contraintes d'une vie gouvernementale. On peut dire que, quelque part, c'était joué d'avance,
oui,
ce qui s'est passé.
C'était contre nature.
Ouais. Parce que ça, la nature, le mandat que, quand Nicolas Hulot se regarde le matin dans la glace, il regarde le Nicolas Hulot activiste, au bon sens du terme, militant de la cause écologique, beaucoup plus que Nicolas Hulot participant à un gouvernement.
Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous êtes exécutant d'une politique ?
C'est-à-dire que quand vous êtes dans une politique, vous ne pouvez pas simplement brûler d'une passion pour un sujet. Mmh. Vous êtes obligé d'accepter de discuter avec vos collègues, de faire que, eh bien, à tel moment, c'est plutôt le ministre de l'Agriculture qui va faire prévaloir sur un dossier ses thèses que celui du ministère de l'Écologie, par exemple. Bien. Et il n'y a pas de drame, la société a besoin d'arbitrer entre différentes priorités. Donc vous n'êtes pas toujours à faire avancer votre priorité, vous êtes amené à faire des concessions. Alors des fois, ces concessions, c'est trop pour tout le monde, et évidemment la démission est légitime, mais d'autres fois, c'est parce que la nature même de votre engagement n'est pas celui d'un engagement, comment dirais-je, de synthèse collective, mais c'est un engagement sur une thématique particulière. Et d'un certain point de vue, aucun gouvernement ne peut répondre à une seule thématique. Il est obligé d'arbitrer.
Ça veut dire que là, en étant dans un effet de com' ou dans un effet de buzz, on sait très bien que Nicolas Hulot
voulait, par exemple, Jacques Chirac, François Hollande, Nicolas Sarkozy, avec Nicolas Hulot, je pense que ces quatre présidents, y compris donc Emmanuel Macron, ont demandé à Nicolas Hulot de faire un job pour lequel, finalement, c'est pas qu'il n'en avait pas les compétences, ni l'intelligence, ni... Mais c'est pas le même métier que d'être dans un gouvernement pour faire avancer un dossier, que d'être quelqu'un qui défend une cause quelque part de l'extérieur, parce qu'il n'admet jamais, ou beaucoup moins en tout cas, l'idée de compromis. Il est toujours dans l'exigence, ce qui est parfaitement légitime.
Alors qu'il y a eu des causes magnifiques, et là je fais appel à votre mémoire aussi, Robert Namias, d'adhésion entre le projet par exemple de Valéry Giscard d'Estaing sur la contraception et la manière dont Simone Veil a pu le porter. Là on était vraiment dans une passion aussi politique qui a abouti à une loi, grande loi.
Oui, et avec quelqu'un qui d'ailleurs a été un ministre de la Santé parfois contesté dans le milieu médical, mais qui était un magistrat ou une magistrate et qui, a priori, n'avait aucune compétence particulière pour être ministre de la Santé.
Elle n'était pas militante de la cause IVG.
Elle
avait des convictions, évidemment,
absolument.
Mais elle n'était pas connue pour être une militante de la cause IVG.
Du tout, il y avait des associations.
Vu ce qu'elle a subi politiquement, c'est-à-dire la violence des attaques contre elle et le courage dont elle a fait preuve, mais c'était pas son hyper-compétence, c'était sa détermination politique, son courage politique.
Mais merci de parler de courage, parce que
c'est peut-être ce
qu'on voit moins aujourd'hui, Robert Namias.
Oui, enfin, c'est forcément différent. Vous parliez tout à l'heure du choix, vous savez, des grands ministres, ce sont ceux qui, à un moment donné, ont toujours collé avec une cause, la provoquant ou simplement y adhérant. Par exemple, Chirac restera pour les agriculteurs leur grand ministre, ça fait plus de 40 ans maintenant, leur grand ministre de l'agriculture, l'énarque Chirac, qui auparavant était secrétaire d'État au budget et puis ministre du budget, il n'avait pas de compétences particulières, même s'il venait de Corrèze, en matière agricole. Et il a porté le projet, il a défendu les agriculteurs, mieux peut-être et plus de manière plus corporatiste pour l'ensemble des agriculteurs français que l'étaient les agriculteurs eux-mêmes. Et il a été considéré comme un grand ministre de l'agriculture. Vous parliez de Simone Veil, c'est la même chose. Moi, je pense qu'il est important de dire les choses telles qu'elles sont. C'est-à-dire
et vous les direz juste après la pause, vous voulez bien, Robert ?
Hein ?
À tout de suite. Gardez tout, Robert Namias, Jean-Marie Le Guen, à tout de suite pour parler de la fonction de ministre, la manière dont vous la voyez aussi. On vous donne les résultats de la consultation Facebook dans un instant.
Question Facebook à propos de la fonction de ministre. Selon vous, les ministres ont-ils les mains libres pour agir ? Non à 78%. Encore une chance que non, nous dit Alexandre. Ce serait l'anarchie, il faut toujours une ligne de conduite, sinon où serait la cohérence ? Déjà que la presse et l'opposition s'en donnent à cœur joie pour tout critiquer en ce moment. Autre message, Fabrice, pour moi, de loin comme ça, c'est Bercy qui gère tout. Un message de Samy. Les ministres sont sous l'ordre du Premier ministre, qui est lui-même sous l'ordre de Macron, qui lui-même obéit aux lobbies et aux grandes entreprises.
Bon, alors, quelle peinture ? On essaie de vous donner la peinture de la réalité. Hein. Nous, avec Jean-Marie Le Guen, ancien ministre, ancien député, et son expérience est mise à profit de cette réflexion avec Robert Namias. Des ministres comme exécutants, c'est-à-dire qu'ils sont quand même exécutants, oui, ou de l'ordre d'un Premier ministre ou de l'ordre d'un président. D'ailleurs, qui les choisit en situation de majorité classique ?
Oui, lorsque nous avons fait place à la pub.
Oui, voilà, vous vous apprêtiez à dire quelque chose.
Je me prêtais effectivement à évoquer la question du choix des ministres qui appartient. Pour l'essentiel, il faut bien le dire aujourd'hui, au président de la République et au Premier ministre qui propose, selon la Constitution, c'est une mini-négociation, mais enfin, pour l'essentiel, les choix sont quand même ceux du président de la République. Et ces choix-là, ils ont évolué avec des critères de nature différente depuis une cinquantaine d'années. Ça a toujours appartenu au président de la République, mais d'abord l'équilibre était plus respecté entre le Premier ministre et le président il y a une trentaine ou une quarantaine d'années qu'aujourd'hui. Et puis deuxièmement, les choix et les critères étaient d'abord et avant tout à 98% des critères politiques et de répartition politique. On faisait un gouvernement en fonction des couleurs politiques. D'abord parce que les partis étaient extrêmement présents, même si ça n'était plus le régime des partis depuis le début de la 5e, les partis étaient très présents et il y avait des critères géographique, de représentativité, pour que le gouvernement donne l'impression de représenter tous les territoires. Il y avait des critères purement politiques pour que le gouvernement
toutes
donne l'impression...
Toutes les sensibilités d'une majorité soient représentées.
Voilà, que les critères paritaires aujourd'hui.
Toute la majorité soit représentée. Aujourd'hui, les critères ont évolué.
Oui.
Et ils ont évolué avec notamment, alors là pour le coup, depuis l'élection d'Emmanuel Macron, une volonté double. Un, la parité qui était déjà celle des précédents gouvernements de Hollande, et en plus la société civile qui doit être à parité avec les politiques dans le gouvernement. Ce qui la modifie complètement. Et c'est qui a donné d'ailleurs, ce qui peut-être induit d'ailleurs, une certaine difficulté que l'on voit bien sur le terrain depuis 6 mois au fond, c'est que le critère majeur qui est la représentativité des territoires, qui était un critère très important pour un gouvernement de la France, il représente la France.
Il n'a pas fait partie
et là,
des choix ici.
Ce critère manifestement ne faisait plus partie des choix du président de la République et du Premier ministre. Et à mon avis, bon, bien sûr, ça n'est pas la raison. Enfin, c'est une des raisons principales.
De
car si
les
territoires se sont sentis délaissés, c'est parce que précisément, ils ne sont pas forcément représentés au niveau de l'État.
Oui, moi je souscris à cette analyse. Encore que quand les territoires étaient représentés, il y avait cette tradition, j'allais dire latine, romaine. C'était que le leader de la région, qui était au gouvernement, avait vocation à emmener dans sa région un certain nombre de moyens de l'État. C'est-à-dire que
un peu
de clientélisme local se faisait.
On reparle de Chirac et de la Corrèze.
Voilà, par exemple. Ouais. Mais
l'exemple,
soyons. Voilà. Mais il y a eu tout un tas de ministres. Oui, bien sûr, où il était légitime. On attendait d'un ministre présent au gouvernement qu'il amène sur son territoire telle administration, tel emploi, telle subvention, etc., etc. Donc ça, c'est effectivement quelque chose qui s'est, et c'est pas forcément anormal, qui s'est un petit peu distendu véritablement.
Il y a un autre critère sur lequel je vais vous faire réagir, Jean-Marie Le Guen, parce que vous avez connu l'évolution de la loi. Après les affaires Cahuzac, après les affaires Thomas Thévenoud, la loi sur la moralisation de la vie politique. Votée sous François Hollande, vous étiez ministre des Relations avec le Parlement à cette époque-là. On a voulu quand même créer une transparence, un côté irréprochable dans le parcours des ministres pour qu'ils prétendent à la fonction. Est-ce que ça n'a pas aussi épuisé, d'un certain sens, un vivier aujourd'hui ? Parce que
Je pense que dans les années qui viennent,
ça va être compliqué.
Il y a un certain nombre de gens qui hésiteront à s'engager à ce niveau-là dans
si on ressort
l'action politique.
Toutes les affaires, toute votre vie,
puisque,
ajoutée à ça les réseaux
si vous
sociaux.
Voulez, bon, que vous soyez contrôlé par l'administration au plan fiscal peut paraître quand même tout à fait normal.
Une déclaration de patrimoine.
Voilà. Sauf que cette déclaration de patrimoine, elle est rendue publique. C'est déjà, quand vous avez des affaires familiales parfois un peu compliquées, c'est déjà autre chose. Et ensuite, ce que sans doute nos auditeurs ne savent pas, c'est que le ministre, pendant 3 ans, est sous contrôle après son mandat.
Après son mandat,
chaque année, tous ses revenus et tout son patrimoine est scruté par la haute autorité de la vie publique. À la fin de son mandat, on fait à nouveau un bilan de s'est-il enrichi, pour dire les choses simplement, comment a-t-il vécu. Et puis ensuite, pendant 3 ans, après la fin de son mandat...
Parce que vous touchez des indemnités pendant 3 ans.
Non, pas aussi. Du tout, non. Pas du tout. Il y a zéro indemnité. Le jour où vous quittez le gouvernement, si je crois que vous avez 6 mois. Mais par exemple, moi, quand j'ai décidé de ne pas me représenter, donc d'aller travailler, bah, j'ai dû demander à la haute autorité si j'avais le droit de travailler dans le secteur où j'étais.
Oui.
C'est vrai pour les membres de cabinet également.
C'est vrai, voilà. Et donc, si vous voulez... Il se trouve que j'étais ministre des Relations avec le Parlement. Donc, je n'avais pas d'administration sous ma tutelle, pas de secteur économique. Je m'occupais de la machinerie politique, mais pas bon. Mais j'aurais été ministre de la Santé, par exemple. Eh bien, je n'aurais pas pu aller travailler dans ce secteur, alors que, par ailleurs, c'est une de mes compétences.
Oui, mais déontologiquement, vous n'auriez pas pu, conformément à cette loi, pour éviter les conflits d'intérêts.
Exactement, exactement. Pendant 3 ans, je n'aurais pas pu travailler pour une mutuelle, des hôpitaux, etc. Bon, donc, j'aurais pu être médecin traitant, soyons clairs et honnêtes. Enfin, bon, quand vous avez fait 25 ans de Parlement, je ne pense pas qu'il soit très utile de revenir immédiatement à la médecine traitante. Donc voilà, mais je vous donne cet exemple pour montrer combien beaucoup de Français, ou de responsables de la société civile, y compris, réfléchiront à deux fois avant de s'engager dans une carrière ministérielle qui est très éphémère, qui est très contraignante et qui vous expose et enfin qui va vous suivre 3 ans après la fin de votre exercice.
Jean-Marie Le Guen, Robert Namias, on fait une toute petite pause et on revient dans le détail sur ces fonctions de ministre. Vous pouvez les illustrer l'un et l'autre. Jean-Claude qui nous appelle d'Antibes va réagir également au Standard d'Europe 1 et on vous donnera quelques témoignages sur Twitter hashtag Europe 1. A tout de suite.
9h-11h, Wendy Bouchard sur Europe 1.
Jusqu'à 10h, nous nous intéressons à la fonction de ministre et aux questions qu'elle pose, cette fonction. Par exemple, est-ce qu'on met comme ministre quelqu'un capable d'assumer la fonction ou quelqu'un qui est spécialiste ? Ou encore, quelles qualités le Premier ministre et le Président choisissent-ils chez un ministre ? Wendy Bouchard.
LCI diffuse à l'instant une interview de Gérald Darmanin. C'est un cas sur lequel on peut aussi revenir. Gérald Darmanin, beau ministère, il a 35 ans, ministre de l'Action et des Comptes Publics, qui réfléchit à revenir dans sa ville de Tourcoing, donc il sera a priori réélu maire. Cela contraste aussi avec le côté très éphémère d'une fonction de ministre qui vous marque évidemment dans une vie. Jean-Marie Le Guen et Robert Namias sont là pour nous en parler de cet investissement avec cette transparence que nous évoquions à l'instant avec la loi moralisation pour la vie politique. Robert Namias, qui peut être un frein quand même pour vous.
Oui, alors sur le plan formel, évidemment, on ne peut que s'en féliciter, bien évidemment. Sur la réalité concrète, c'est plus compliqué qu'il n'y paraît parce que effectivement, on peut se demander si, au fil des années, l'accumulation de ces lois sur la transparence, et j'entends bien ce que je dis, c'est-à-dire qu'on va me renvoyer, oui, bah, c'est la moindre des choses, etc. Oui, mais il faut savoir quand même que on parlait de la transparence fiscale, mais on voit bien aujourd'hui qu'il ne s'agit pas que de cela. C'est la totalité de la vie privée. Je peux dire qu'à partir du moment où vous devenez un homme public, et qui plus est un ministre, vous savez que dans la semaine suivante, vous aurez vraisemblablement un petit papier dans le canard enchaîné. Simplement parce qu'aujourd'hui, c'est comme ça. Et qu'à partir du moment où un homme devient un ministre, ou une femme devient une ministre, eh bien, immédiatement, il y a un certain nombre de gens qui vont aller fouiller le passé. C'est comme ça. Et au nom de la transparence obligatoire, on met tout sur la table. Mais honnêtement...
Mais voilà, pardon, pourquoi pour ces affaires et en rapport à ces affaires, on a eu François Bayrou, Richard Ferrand, Marielle Le Sarnez, qui ne sont restés que quelques semaines au gouvernement Macron et qui sont partis parce qu'ils étaient sous le coup d'affaires, voilà, de mettre en cause leur
innocence. Il ne s'agit pas de porter de jugement sur le fond, notamment sur ces affaires. Il s'agit simplement de comprendre, parce qu'il faut comprendre que aujourd'hui, encore une fois, la transparence est telle que vous pouvez fort bien, sans avoir commis quoi que ce soit d'exceptionnel, mais moi, je le dis à tous ceux qui nous écoutent,
On vous dit demain, vous êtes ministre, vous aurez toute votre vie, y compris celle dont vous ne vous souvenez plus, que vous croyez absolument intègre et parfaite, et qui l'est vraisemblablement. Mais on pourra toujours trouver quelque chose qui fait que, aujourd'hui, avec le système en plus médiatique qui est en place, le système des réseaux sociaux, ça devient des affaires qui, non seulement... vous mettre en cause personnellement, mais mettre en cause votre entourage, mettre en cause de manière durable, voire définitive, votre image. Il y a de quoi y réfléchir à deux fois, je peux vous dire.
Vous avez des enfants, vous pouvez avoir des enfants, vous pouvez avoir une vie familiale un peu plus compliquée, etc. Oui, on a connu ça aussi, des ministres qui avaient des enfants avec un problème, dont le problème devient maintenant un symbole, à la fois pour la ministre, mais pour l'enfant lui-même, qui est projeté dans la vie. Il n'a rien demandé, il a pu faire ceci ou cela, et puis tout d'un coup, voilà. Si on appliquait ce type de méthode à tout le monde, je pense qu'il y a peu de gens qui en sortiraient.
Vous étiez opposé à cette loi ? Vous étiez opposé à cette loi de
surtransparence ? Non, parce que pour vous dire les choses, je l'ai voté parce qu'on y est amené par une pression, mais à un moment où on y est amené, on y est contraint. D'ailleurs, c'est pour ça que souvent dans la décision politique, il y a l'écoute d'abord de l'opinion publique et à partir de ce moment-là, on s'aligne sur cette opinion publique. Et en l'occurrence, c'était tout à fait ça.
On voit bien les limites et les
dangers.
Moi,
j'avais
des
scrupules, mais en même temps, tant que les Français ne comprendront pas que le politique... je peux le dire aujourd'hui, je n'ai pas de responsabilité politique, je n'ai plus l'intention d'en avoir, mais... ce déchaînement, cette haine vis-à-vis du politique, quel qu'il soit, qu'on a pu assister, c'est extrêmement grave pour non seulement la démocratie, mais vraisemblablement aussi pour la bonne gestion du pays dans les années qui viennent. On aura besoin alors, de responsables politiques choisis par les uns ou par les autres, chacun avec des sensibilités, mais qu'on a besoin, une société a besoin de responsables politiques. C'est un mensonge de dire que n'importe qui peut à un moment, c'est pas qu'il a des qualités supérieures, c'est qu'il accepte de faire un certain nombre de tâches, c'est qu'il a par exemple une émotivité un petit peu plus maîtrisée théoriquement que d'autres personnes, etc. Et puis peut-être aussi une perspective. Et il est capable, ce politique, à un moment donné, de gagner la confiance d'un certain nombre de nos concitoyens. Ce sont des fonctions qui ont toujours existé dans l'histoire et qui existeront toujours dans les sociétés. Et cette haine contre les politiques, c'est une aberration et c'est extrêmement dangereux pour la démocratie.
Encore faut-il un vivier aussi, Robert Namias. On parlait de cet épisode Christophe Castaner, la soufflante manifeste du président de la République à son encontre, mais surtout l'interrogation, qui pour remplacer Christophe Castaner si on doit vraiment changer de ministre de l'Intérieur. Aujourd'hui, il y a cette question qui se pose aussi, à la fois dans la compétence, dans l'autorité et dans le symbole.
Là, honnêtement, mais pour les raisons qu'on a dites, c'est qu'effectivement, je pense que à la fois la loi sur le cumul des mandats, et qui interdit pour l'instant la quasi-intégralité des cumuls de fonctions importantes, et deuxièmement, le fait que, historiquement, Emmanuel Macron a pulvérisé le monde politique, mais n'a pas incité à une reconstruction derrière, et le monde lui-même, il y arrivera peut-être, mais pour l'instant, il ne s'est pas reconstruit, fait qu'effectivement, nous sommes dans un champ de ruines qui fait que les politiques de premier plan aujourd'hui, on les cherche un peu, il faut bien le reconnaître. Mais je voudrais revenir quand même sur l'affaire de la vie privée, parce que...
Après, vous voulez bien ?
Encore
je
après ?
Je fais des teasing, un cry. À tout de suite, Robert Nevers, Jean-Marie Le Guen. Les dernières minutes de l'émission consacrée à la fonction de ministre. Un sacerdoce, voilà, que vous aimiez ou non, nos ministres plus ou moins experts, quel engagement faut-il quand même avec tout ce qui vous retombe dessus et cette transparence, y compris sur la vie privée, Robert Namias et Jean-Marie Le Guen?
Oui, je pense que c'est d'ailleurs ce qu'il y a de plus compliqué à gérer pour ceux qui veulent entrer en politique, parce que la transparence fiscale, à la limite, elle est relativement facile, même s'il y a des dossiers parfois plus compliqués. En revanche, la vie privée, imaginez, et ceux qui m'écoutent peuvent le comprendre, imaginez, parce que ça s'est passé comme ça pour un certain nombre de politiques, et ça a existé. Vous avez un fils qui fume du hache. Bon, très bien, c'est interdit de fumer du hache. Bon, sauf que la moitié de la France a fumé une fois dans sa vie du hache. Quoi. C'est comme ça, bon, faut pas non plus se cacher derrière son petit doigt. Eh bien, ça peut faire la une, et ça a fait la une des journaux. Pour des ministres dont le fils avait fumé du hache. Est-ce que, sincèrement, et avec toute l'image que ça draine derrière. Finalement, un ministre qui n'est pas capable de gérer ses enfants, imaginez ce que ça pose sur... Bon, mais très bien, mais enfin, les parents qui m'écoutent le savent très bien. Combien en France y a-t-il de parents qui ont eu des enfants qui ont fumé des haches?
Est-ce que ça a changé quelque
chose? Est-ce que ça a changé quelque chose dans leur entreprise, qu'ils soient au bas de l'échelle de l'entreprise ou PDG de l'entreprise? Non. Jamais.
Exemple
et fort
terrible.
Heureusement. Ouais. Eh bien, ça change quelque chose dans la vie d'un homme politique ou d'une femme politique. Et ça, c'est vrai que c'est un problème. Il faut le mettre sur la table parce que on est allé tellement loin dans la pression de la transparence qu'on a perdu l'équilibre.
Oui, et il faut trouver
députés,
la force de l'engagement.
Actuelle, puisque on n'est pas ministre, mais député. Bon. Qui voit leur maison envahie? Je veux dire, il faut avoir une famille qui supporte ça. Je veux dire, il y a des familles qui
leur maison envahie
par des manifestants, etc.
Oui.
Donc je veux dire le degré de violence,
aussi,
la surexposition, etc. On exerce sur ce type de personnes, donc qui ont quand même un engagement. Après, on peut voter contre eux et de leur demander leur départ. J'ai absolument aucun problème. Mais de là à exercer une violence. Donc ça a des conséquences sur l'environnement.
Ce qui m'intéresse,
Jean-Marie
Le Guen.
Le député va dire, écoutez, moi je suis prêt à supporter ça, mais ma famille, ma femme, mes enfants,
Jean-Marie
etc.
Jean-Marie Le Guen, ça veut dire que face à tout ça, avec votre expérience et votre expertise, vous ne repartiriez pas pour un ministère, vous?
Écoutez, oui, non, je pense
c'est
que
trop
maintenant...
C'est trop.
Écoutez, c'est ma vie à moi dans mon parcours de vie et j'ai eu la chance d'avoir des engagements et de l'expérience. Bon, je suis content de ce que j'ai pu faire, donc maintenant je passe à autre chose. Mais effectivement, vous ne pouvez pas dire que vous vous réengagez en politique sans en voir les conséquences.
Et les inconvénients.
Moi, j'ai des enfants qui sont plutôt contents que j'ai quitté la politique, très honnêtement.
Oui, et quand on quitte la politique, justement, ça fait partie des autres sujets qu'on pourra évoquer, mais la reconversion... est-elle plus ou moins facile? Vous aviez confié à Thomas Thévenoud qu'une fois qu'on était ministre, après les choses étaient plus faciles, parce que c'était un blanc-seing pour...
Oui, c'est ce qu'il a dit, je crois qu'il s'est un peu...
Il a un peu interprété vos
non,
paroles.
Non, c'est pas un blanc-seing, je pense que ce qui est vrai, c'est qu'on a une expérience... Alors, je veux pas faire plaindre auprès des Français, c'est pas le sujet, mais c'est vrai qu'on a, par ailleurs, une expérience tout à fait extraordinaire, on voit un certain nombre de choses, on est au contact de beaucoup de dossiers, bon, on voit comment l'histoire avance, petite histoire, de temps en temps, pas toujours la grande, mais quand même, on est donc c'est très enrichissant du point de vue humain. C'est très dur et très difficile, je le crois. C'est surtout dur et difficile pour ceux qui n'ont pas fait le choix de cet engagement, c'est-à-dire vos proches, votre famille, etc.
Donc après, on se console un peu dans le privé, ça arrive? Pour être
À l'abri. Remarquez, c'est aussi normal, c'est ce qu'on veut. Si on veut que la société civile, si on veut que les politiques, il faut qu'ils puissent revenir aussi
sens.
Dans... évidemment, à moins qu'ils soient... interdit de travailler.
Merci Jean-Marie Le Guen. Voilà pour votre témoignage aujourd'hui. Monsieur Robert Namias, vous êtes le bienvenu dans cette maison qui est la vôtre.
Merci.
À bientôt, Robert Namias, avec votre roman coécrit avec Michel Cotta, Fake News, que vous trouvez toujours en librairie. Et comment? On va se retrouver avec une enquête choc sur la pollution de l'air. Voilà, c'est intéressant. Ça fera réagir aussi le médecin que vous êtes, Jean-Marie Le Guen, un fléau qui tue chaque année en France davantage que la cigarette. 67 000 morts prématurées. À tout de suite.
9h-11h, Wendy Bouchard sur Europe 1.